Yes, we can.
Ils sont vénézuéliens et fuient leur pays.
Depuis des temps immémoriaux, vit ici un peuple qui vénère les femmes. Ce sont les Mozos.
Ici le monde, c'est un voyage en trois escales de ce qui fait l'actualité à l'étranger. Cap ce matin sur l'Australie, le continent le plus aride de la planète, confronté lui aussi à la sécheresse. Alors forcément, l'activité agricole se concentre autour des rares bassins hydrographiques, mais le grenier de l'Australie est de plus en plus menacé, par la sécheresse donc, mais aussi et surtout par la surexploitation et la pollution des cours d'eau. On en parle avec notre correspondant sur place, Grégory Pless. Grégory, vous vous êtes rendu à Vilcania, c'est une ville à 10 heures de route de Sydney et qui illustre très bien ce problème.
Oui, c'est une petite ville d'environ 700 habitants qui est traversée par la rivière Darling. Et quand on la visite aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y a un peu moins de 100 ans, c'était le troisième plus grand port d'Australie. Aujourd'hui, le niveau de l'eau arrive à peine au niveau des genoux et il y a 3 ans, en pleine sécheresse, elle était même complètement à sec. L'eau de la rivière est par ailleurs très boueuse et impropre à la consommation. Alors des travaux ont été réalisés récemment pour remettre en état la station d'épuration locale, mais les habitants de la ville continuent d'éviter de la boire, d'autant qu'elle a un goût assez particulier. Je vous laisse écouter la description qu'en font Polly et Brandon, deux jeunes aborigènes qui vivent à Wilcania.
L'eau est soi-disant potable, mais elle n'est vraiment pas terrible. Elle a un goût de chlore, cette eau. C'est la même eau qu'on utilise pour boire, pour se laver, pour cuisiner. Mais on n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre, à moins de dépenser une fortune pour de l'eau en bouteille.
Et de fait, l'eau en bouteille coûte très cher à Wilcania, environ 4,50€ pour une bouteille d'1,5 litre, soit 6 fois plus que dans un supermarché de Sydney, et plus du double du prix du litre de diesel.
Alors ce problème d'accès à l'eau potable, il n'a pas que des conséquences sanitaires dans cette ville où la vaste majorité de la population est aborigène.
Non, effectivement, puisque la communauté aborigène locale, on les appelle les Barkindji, ce qui signifie le peuple de la rivière. Et pour cette communauté, eh bien cette rivière, elle est vraiment au centre de leur mode de vie traditionnel. C'est une source de nourriture, bien sûr, un lieu de rassemblement aussi, mais ils entretiennent avec elle un lien quasi sacré, un lien que l'artiste Badger Bates résume en ces termes.
J'ai 3 mères. Ma maman m'a mise au monde, ma grand-mère s'est occupée de moi et la rivière me nourrit. Aujourd'hui, mes 2 premières mères sont mortes, mais la rivière Barka est toujours là et je me bats pour sa survie.
Et Badger, en effet, milite à travers ses peintures et ses sculptures qui ont été exposées à travers toute l'Australie pour sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur la Barka et donc aussi sur sa communauté.
Les menaces, Grégory, elles sont majeures ?
Oui, absolument. Il faut savoir qu'à Wilcania, l'espérance de vie pour les hommes aborigènes est d'à peine 37 ans et de 42 ans pour les femmes. Pour vous donner un point de comparaison, le pays le plus mal classé en la matière, c'est l'Afghanistan et l'espérance de vie y est de 54 ans. Et si cette espérance de vie est aussi faible à Wilcania, c'est parce que le nombre de suicides y est très élevé. C'est même l'une des principales causes de mortalité dans cette commune. Par ailleurs, il y a un lien direct entre l'état de la rivière et celui de la société. D'après la police locale, plus le niveau de l'eau est bas et plus la criminalité augmente. Tout comme d'ailleurs, selon les organisations aborigènes locales, les cas d'automutilation chez les jeunes et plus largement les problèmes liés à la santé mentale.
Cette situation catastrophique, elle résulte du réchauffement climatique, mais aussi de la surexploitation de la rivière.
Oui, il faut savoir que depuis une dizaine d'années environ, à des centaines de kilomètres plus en amont, il y a de nombreuses et immenses fermes de coton qui se sont établies le long de la rivière et dans laquelle ils pompent 2500 milliards de litres d'eau par an, soit plus du tiers de toute l'eau extraite de cette rivière à des fins d'irrigation. Et puis, ils y rejettent également des produits très polluants. Résultat, l'année dernière, on a retrouvé des millions de poissons morts à la surface de la rivière Darling. Alors, comment c'est possible? Eh bien, parce que ces grands producteurs, en déréglant complètement l'écosystème de la rivière, ont permis que des algues y prolifèrent et ces algues, elles ont asphyxié les poissons. Le gouvernement a, lui, pris des initiatives pour mieux réguler l'usage de cette rivière. Mais dans un état fédéral comme l'Australie, ça n'est pas évident, puisque cette rivière traverse en fait plusieurs états australiens qui ne sont pas coordonnés entre eux pour établir un cadre clair et uniforme sur l'exploitation de cette rivière.
Et le pays des kangourous et des koalas ne semble pas au bout de ses peines. Une étude scientifique révèle que l'Australie pourrait connaître des épisodes de méga sécheresse de plus de 20 ans. Deuxième escale de notre voyage, les États-Unis. L'élection présidentielle, c'est dans moins de 3 mois et on va s'intéresser aujourd'hui à la génération Z. Les 12-27 ans, leur avis compte, ils sont 70 millions et vivent dans un pays gangréné par la violence des armes à feu. Il y a plus d'armes en circulation que d'habitants aux États-Unis. 300 fusillades de masse chaque année. Reportage.
Je vous emmène dans la banlieue ouest de Louisville, Chicasso, quartier noir de classe moyenne. Krista Gwynne, 54 ans, habite un petit pavillon de briques dans le salon, un véritable mausolée en mémoire de son fils aîné.
Ici, c'est l'urne funéraire. On a mis ses cendres dans nos bijoux. Donc les cendres de mon fils sont dans la gourmette de mon mari.
Christian est mort un soir d'hiver, 3 semaines après son 19e anniversaire.
Il devait rentrer avant 22h. Il venait de quitter le restaurant Indies, un fast-food, avec un ami. Une voiture a remonté la rue, la vitre s'est baissée et quelqu'un a tiré par la fenêtre.
22 ans, 21 condamnations, son meurtrier purge une peine de 10 ans de prison mais n'a jamais expliqué son geste. Un an et demi plus tard, Victoria, la petite sœur de Christian, passe l'après-midi dans un parc avec un ami.
Ma fille était sortie depuis moins de 45 minutes. Elle m'a envoyé un texto, viens me chercher maman, on m'a tiré dessus.
Sans raison apparente, les occupants d'une voiture tirent vers le parc à l'arme lourde. Victoria est blessée, son ami tué. Depuis, elle ne sort plus de chez elle.
Vous ne pouvez même pas aller à l'épicerie tranquillement. Je me suis fait tirer dessus dans un parc. Je hais le fait que mon frère ne soit plus là. Il n'avait pas mérité ce qui lui est arrivé. Mais je préfère le savoir mort plutôt que d'affronter ce que la société est devenue aujourd'hui.
Ex-institutrice, Krista milite désormais au sein d'une association et fait l'école à la maison.
Mon fils venait d'avoir 19 ans et ma fille également, 3 semaines avant d'être blessée. Comme si 19 ans, c'était une condamnation à mort. J'ai retiré ma plus jeune de l'école, on doit la protéger.
Entre le Midwest et le Sud profond, le Kentucky est le pays des courses hippiques et du Bourbon, mais aussi le premier État américain en termes de possession d'armes à feu, 134 pour 100 habitants.
Arrivé à la grange.
C'est l'une de ces armes qui a blessé grièvement Olivia Barzinski il y a 2 ans dans sa petite ville de Lagrange.
Je me suis arrêtée dans un magasin tôt le matin. Un type s'est approché de moi, il a volé mon sac avec mon argent, mon téléphone, mes papiers, et il m'a tiré dans le visage.
La jeune femme de 24 ans passe un mois dans le coma, reste de multiples séquelles, certaines visibles, d'autres non.
J'ai une corde vocale paralysée, ma mâchoire a explosé, la balle a tranché ma carotide. J'ai dû réapprendre à parler, à marcher, à boire. Je souffre de dépression, d'anxiété, de paranoïa qui font suite au trauma.
Son assaillant n'avait que 18 ans, l'âge de son petit frère. Il n'a pas encore été jugé.
Je ne suis pas pour l'interdiction complète des armes, mais je pense qu'il faut plus de régulation. Les choses doivent changer.
Du changement, comme le demandent ces jeunes épiscopaliens rassemblés à Louisville.
J'ai été touchée par la violence armée.
J'ai été touchée par la violence armée.
Nous avons été touchés par la violence armée.
Emma Van Der Haar, 20 ans, milite au sein de Students Demand Action. Les étudiants réclament des actes.
On a tous été entraînés à courir en zigzag pour qu'il soit plus difficile de nous atteindre. J'espère que mes enfants ne connaîtront pas cela.
Malgré la tentative d'assassinat qu'il a visée en juillet, Donald Trump continue de défendre le second amendement qui garantit le droit de posséder une arme. De son côté, Kamala Harris promet d'interdire les fusils d'assaut, une inflexion notable, estime Emma Van Der Haar.
Quand j'ai commencé en 2018, c'était une mauvaise stratégie politique de vouloir interdire les fusils d'assaut. Ce n'était pas populaire. Désormais, c'est le sujet principal sur lequel nous militons. On espère que les choses évolueront en interpellant nos législateurs et en se présentant nous-mêmes aux élections.
À l'image de Maxwell Frost, militant anti-armes et lui-même rescapé d'une fusillade, élu représentant démocrate de Floride à 25 ans, il est le premier membre du Congrès américain issu de la génération Z.
Un reportage de Sébastien Sabiron pour France Inter. Dernière escale de notre voyage, le Venezuela. Depuis l'élection présidentielle du 28 juillet dernier, le pays est en crise. Une crise de confiance, une crise humanitaire, en plus de la crise économique qui est là depuis 10 ans. La répression est quotidienne. 700 personnes ont été interpellées la semaine dernière. Au total, 2400 personnes, dont des mineurs, ont été arrêtées. Le bilan humain est lourd, 27 morts. Cela mérite donc une analyse avec Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen. Monsieur Posado, on parle de détention arbitraire, de disparition forcée, d'actes de torture. Le président Maduro encourage même ses concitoyens à dénoncer les manifestants qui remettent en cause sa réélection.
Il y a même une application pour cela, la VNE App.
une application qui servait pour les programmes sociaux, pour d'autres choses, qui du coup avait cette modalité pour dénoncer des citoyens qui s'opposeraient du coup à la reconnaissance des résultats proclamés par le Conseil national électoral proche de Nicolas Maduro. On a des cas de détention arbitraire qui sont de ce type-là, hein, des travailleurs du secteur public qui ont été licenciés parce qu'on a vu qu'ils ont communiqué des messages en faveur de l'opposition. Un témoignage d'une lycéenne qui a été arrêtée parce qu'elle avait sur son téléphone un message WhatsApp qui réclamait les actas, donc c'est-à-dire les procès-verbaux qui seraient la preuve de la fraude de Nicolas Maduro. Donc oui, on est à des niveaux de répression élevés et où Nicolas Maduro ne cherche même pas à minorer cette répression. Au contraire, hein, il l'assume assez ouvertement.
On en est où de la divulgation des résultats? Ce n'est pas une obligation légale?
Alors, les publications des résultats comptés, ce n'est pas une obligation illégale dans l'immédiat, mais c'est une publication dans les 30 jours. Donc, on est déjà dépassé ce délai des 30 jours. C'est strictement incompréhensible de ne pas publier ces résultats détaillés. Le gouvernement affirme qu'il a subi du hacking, il empêche de les publier. Voilà, il y a des preuves papier hein, qui peuvent permettre de publier cela. Et donc, en collectant, enfin, tout à fait l'opposition d'ailleurs, en collectant les preuves papier, voilà, un nouveau site pourrait tout à fait être mis en ligne pour attester de ces preuves. Si le gouvernement avait ces chiffres-là. Ces chiffres-là seraient décisifs parce que la différence entre les chiffres proclamés par l'opposition et les chiffres proclamés par le gouvernement est une différence extrêmement large. Hein. Enfin, on n'est pas sur une contestation de quelques centaines de bulletins, hein. On est sur une différence de plusieurs millions de voix où la publication bureau de vote par bureau de vote permet assez facilement d'arriver à établir la sincérité du scrutin.
Le parquet vénézuélien menace maintenant d'arrêter le candidat de l'opposition qui revendique la victoire. Ajouté au reste, on a l'impression que ça ressemble quand même un peu à un aveu de défaite du candidat Maduro. Ce qui se passe vous étonne?
Il y a depuis maintenant plusieurs années un autoritarisme croissant au Venezuela de la part de Nicolas Maduro. Avec lequel Nicolas Maduro arrivait à se maintenir au pouvoir en essayant de diviser l'opposition, en mettant des obstacles autoritaires sur la route du scrutin qui faisait que, au final, une partie de l'opposition finissait par boycotter le scrutin. Là, l'opposition s'est maintenue unie jusqu'au scrutin. L'ampleur de cette répression, oui, me surprend, même moi qui suis l'actualité vénézuélienne avec assiduité. On n'avait jamais vu un scénario de ce type-là. Est-ce que c'est complètement surprenant de la part de Nicolas Maduro qui nous a habitués à des procédés autoritaires depuis des années? Non. Il est un nouveau pas. Il n'avait pas été franchi jusque-là en termes de dérives autoritaires et de limitations supplémentaires des libertés démocratiques, même si, je le répète, elles étaient déjà nombreuses avant le scrutin.
La communauté internationale, elle ne réagit pas?
Que peut faire la communauté internationale? C'est une grande question. Enfin, on est dans le cas d'un État qui affronte un isolement international assez fort. Je rappelle qu'entre 2019 et 2022, le Venezuela a connu un quasi-blocus de la part des États-Unis. Il faut être conscient que la pression des États occidentaux en particulier qui est de nature à faire faiblir le régime. Ce ne serait pas la même chose si la Russie ou la Chine, qui sont des partenaires extrêmement forts du Venezuela, venaient à changer d'avis. La Chine a beaucoup investi en termes d'argent, la Russie a un poids politique au Venezuela, et donc pour l'instant, un changement de leur part n'est pas à l'ordre du jour.
Ce qu'il y a, c'est qu'au milieu, la population trinque.
Il est évident que la population vénézuélienne souffre de cette réalité, que l'impact de la crise économique qui a eu lieu entre 2014 et 2020, qui a vu le PIB s'effondrer de 80% de sa valeur, le fait que le pouvoir d'achat ne représente plus rien au Venezuela. Hein. Le salaire minimum représente entre 3 et 4 dollars par mois, alors que le panier alimentaire moyen est de 550 dollars. On a une population qui vit des remessas, donc des transferts d'argent que certaines personnes peuvent recevoir de l'étranger, donc d'aides alimentaires que peut fournir le gouvernement, de bons que peut fournir le gouvernement. Donc une population qui devient extrêmement dépendante, mais qui est dans une situation de débrouille, dans une situation de survie quotidienne. On constatait depuis 2-3 ans un léger redressement économique, mais qui se faisait au prix d'une explosion des inégalités. Hein. On a même l'ouverture d'un magasin Ferrari au Venezuela. On l'imagine mal dans tout ce qu'on dit sur le Venezuela, dans le niveau de crise économique que connaît le Venezuela. Et des millions de Vénézuéliens qui, pour le coup, ont du mal à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.
Cela fait 10 ans que le pays est en crise. Un quart de la population a fui à l'étranger, soit 8 millions de personnes. C'est la fin d'Ici le Monde. Merci à vous de nous écouter. Merci d'être ouvert à l'actualité internationale.